C'est le débat économique avec nos deux chroniqueurs économiques quotidiens, Bernard Maris, que je salue. Bonjour Bernard.
Bonjour Nicolas.
Et Jean-Marc Sylvestre, que je salue également.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc. Bernard Maris, il paraît que votre anti-manuel d'économie sous-titré Les Cigales se vend bien.
Oui.
Bravo. Eh ben, on en aura besoin pour les deux sujets d'aujourd'hui. Premier sujet, l'euro fort. Bruno Dubic le disait dans le journal, la monnaie unique européenne a atteint des niveaux records cette semaine. Et hier matin, Jean-Marc, vous nous énumériez les avantages plus que les inconvénients de cette monnaie forte. Donc, à vous la parole maintenant, Bernard Maris. Est-ce bien ou pas l'euro fort?
Pour la zone euro, c'est très bien. Pour le commerce de la France et de l'Allemagne, c'est formidable. C'est fini. La France n'a plus à subir le mark fort qui obligeait à avoir des taux d'intérêt trop élevés sur le franc pour rattraper le mark. De ce côté-là, c'est très très bien. C'est mauvais en revanche pour le commerce de la zone euro avec l'extérieur, sauf pour un pays très particulier qui est l'Allemagne, parce qu'il a une industrie très particulière. De ce côté-là, c'est vrai que les exportations de la zone euro vis-à-vis de l'extérieur, c'est là où se trouve l'économie en ce moment. C'est l'Asie, etc. Elles sont vraiment ralenties depuis 5 ans, depuis que l'euro est fort. Et puis globalement, je vais dire, un euro fort, c'est bon pour les capitalistes, pour les prêteurs, c'est mauvais pour les salariés et pour les emprunteurs. Il faut voir qu'une monnaie forte, quelle qu'elle soit, lorsqu'une monnaie est trop forte, il y a deux catégories de personnes qui sont favorisées ou au contraire défavorisées. Les emprunteurs sont défavorisés, c'est plutôt une monnaie inflationniste qui favorise les emprunteurs. Les prêteurs sont favorisés, les salariés sont défavorisés et les revenus, au contraire, ceux qui touchent des revenus du capital sont favorisés.
Est-ce qu'un président ou une présidente de la République française y peut quelque chose, Bernard Maris?
Non, non, franchement non, parce que c'est même pas M. Trichet qui peut quelque chose, puisque lui, il regarde uniquement le taux d'inflation. Ce sont les Américains qui ont une politique assez agressive en matière de monnaie, c'est-à-dire qu'ils émettent des bons et des bons et des bons et des bons du trésor, qui fait que la monnaie augmente, le volume de la masse de dollars augmente et que la monnaie américaine est faible avec un
pacte. Donc même le patron de la Banque Centrale Européenne, il peut rien.
À mon avis, il peut rien. Franchement, il peut rien.
Jean-Marc Sylvestre?
Non, je pense que là, sur ce point-là, Bernard Maris a raison de le souligner, c'est que les autorités monétaires ne peuvent pas manipuler, comme certains hommes politiques essaient de le faire croire, les taux de change.
Sauf
que depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez noté, ils ont quand même mis une sourdine ou un bémol à un certain nombre de critiques qu'ils pouvaient faire à l'encontre de la politique monétaire, à l'encontre du président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet.
Mais tout ce qu'on a entendu sur le mode, on va réformer cette Banque Centrale, on va avoir une vraie politique monétaire pour l'industrie, etc. Tout ça, c'est impossible.
Il ne faut pas redécouvrir ce qui existe déjà depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que nous sommes en régime de change flottant. Et que la valeur d'une monnaie, la valeur de l'euro, dépend de quoi? Eh bien, ça dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande de cette monnaie sur le marché. L'euro est aujourd'hui survalorisé, c'est vrai, par rapport au dollar, par rapport au yen, par rapport au yuan chinois, parce que l'euro est plus rare que le dollar, le yen ou le yuan. Et il est plus rare pourquoi? Eh bien, il est plus rare parce que l'essentiel du commerce, et Bernard le disait tout à l'heure, se fait entre l'Amérique et la zone asiatique. Beaucoup de commerce, donc beaucoup de monnaie. Et s'il y a beaucoup de monnaie sur le dollar, sur le yen, sur le yuan, eh bien, ces monnaies-là valent un peu moins cher que l'euro. C'est un équilibre entre l'offre et la demande.
Bernard Maris.
Alors, on pourrait rêver d'une politique des taux d'intérêt assez agressive, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt de façon à ce que la valeur de l'euro baisse. Mais ça n'aurait pas beaucoup d'effet. Regardez les Japonais, ils ont vraiment baissé les taux d'intérêt sur.
Non, mais de toute façon, vous êtes déjà à des taux d'intérêt de 2%. Vous pouvez pas les baisser beaucoup.
On est à 4, là. Maintenant, on a à peu près la même chose.
Mais il y a une très, quel serait l'enjeu, là, d'une baisse des taux d'intérêt?
De façon à inonder, on inonderait le marché international d'euros, ce qui ferait baisser la valeur de l'euro. Mais il faut savoir que la plupart des transactions internationales se font en dollars. Deuxièmement, que beaucoup de réserves internationales sont en dollars, si je pense qu'il va être d'accord avec moi.
C'est Jean-Marc Sylvestre.
Jean-Marc va être d'accord avec moi. Et donc, on ne peut pas aussi aller vers une diminution trop forte du dollar. Quand vous savez que les Chinois ont 2000 milliards de dollars de réserves, ils ne peuvent pas accepter une diminution trop forte du dollar.
Alors, qu'est-ce qu'il en pense?
Il n'y a pas d'inconvénient majeur à avoir un euro fort aujourd'hui pour la zone euro. Bernard Maris a totalement raison. Vis-à-vis de l'extérieur, mais quand il parle des avantages, il en oublie simplement l'avantage que retire le consommateur, à commencer par le consommateur français. La veste magnifique que Bernard Maris porte aujourd'hui, qu'on ne voit pas à la radio malheureusement, la chemise magnifique qu'il porte.
Non, ça c'est la vôtre qui vient d'Angleterre, où il n'y a pas d'euros.
Ce sont des vêtements, les écrans plasma qui sont devant vous ont été achetés grâce à un euro fort à des prix qui sont 15 à 20% moins chers.
C'est une bonne nouvelle, cet euro fort. Moi, j'aimerais comprendre parce qu'on a eu l'impression que c'était un drame pour la France dans cette campagne présidentielle.
Écoutez, c'est une difficulté. Ce n'est pas une difficulté pour l'ensemble de l'Europe. C'est une difficulté pour certains pays européens, parce que l'Europe est une addition de pays qui restent quand même autonomes.
Mais Airbus, par exemple, voilà, on a dit on vend pas d'avions parce que l'euro est trop fort.
Il va falloir cesser de considérer que les difficultés d'Airbus sont liées à l'euro fort. Faut quand même pas exagérer.
Ça, tous les candidats l'ont dit,
Jean-Marc. C'est vrai. Peut-être. Mais c'est peut-être pour éviter de parler des difficultés structurelles internes à l'organisation même d'Airbus.
Un mot de Bernard Maris, puis on passe au deuxième sujet.
C'est bon parce que nous importons du pétrole qui est facturé en dollars. C'est mauvais parce que nous exportons des Airbus. Si vous regardez les exportations de la zone euro vers l'extérieur, eh bien, elles diminuent. Elles sont depuis 5 ans, elles diminuent. Elles diminuent parce que l'euro est trop fort. Sauf l'Allemagne, qui est un cas très particulier, qui est une économie industrielle amont, qui fait les machines dont les autres ont besoin.
Bon, votre sens de la synthèse vous honore. Deuxième sujet, la fragilité des entreprises françaises soumises à la pression des capitaux. Vous affirmez, Jean-Marc Sylvestre, dans ce débat, que la moitié des grandes entreprises sont en situation de vulnérabilité. Pourquoi ce pessimisme?
C'est pas un pessimisme, c'est un constat.
Et c'est un constat pessimiste.
C'est un constat qui n'a pas été fait et qui n'est pas sorti pendant la campagne présidentielle. Et c'est un peu dommage sur la fragilité structurelle des grandes entreprises françaises qui sont soumises, évidemment, aux capitaux étrangers. En moins de quelques semaines, nous avons vu une grande société du bâtiment et des travaux publics, Eiffage, notamment, soumise aux attaques d'un investisseur et d'un concurrent espagnol. Nous avons vu Carrefour soumise Carrefour, qui est quand même le deuxième groupe de la distribution d'origine française, soumis aux attaques d'un fonds d'investissement d'origine américaine, allié d'ailleurs à un investisseur français. On a vu Vinci, deuxième entreprise de bâtiment de l'Europe publique, dont le capital est très éclaté. On verra sans doute Suez, vraisemblablement fragile. Nous avons beaucoup d'entreprises qui ont des fragilités au niveau de leurs capitaux.
Mais c'est le capitalisme, c'est un petit peu, non?
On achète
des entreprises, on les revend.
Bernard Maris, dans le capitalisme. Donne une leçon de capitalisme à Jean-Marc. On aura tout vu.
Est-ce qu'il veut... Il veut nationaliser, c'est ça? Il veut qu'il y ait des actions à l'or? Il veut
si
que l'État intervienne?
Si vous me laissiez parler, je pourrais répondre à la question que vous n'avez pas posée.
Êtes-vous pour les nationalisations, Jean-Marc Sylvestre?
Parce qu'autrefois, quand il y a eu la même histoire, quand on a privatisé en 86, Monsieur Balladur a dit, ça va être terrible, les entreprises françaises vont être rachetées parce que le capital est trop dispersé.
D'où les noyaux durs.
On va faire des noyaux durs. Ils ont éclaté à la première secousse boursière, les noyaux durs. Ça, c'est le capital. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils achètent des morceaux d'entreprise, ils les revendent, et là, le capital.
Dure leçon de réalisme, Jean-Marc Sylvestre.
Non, je crois que la leçon qu'il faut tirer de cette affaire, c'est qu'il y a sans doute un problème de gouvernance au niveau des entreprises françaises. On ne peut pas prendre le contrôle d'une entreprise aujourd'hui en ne prenant que 5, 10 ou 20%
du capital.
C'est
la vie, ça. C'est le capitalisme moderne.
C'est compliqué. Vous avez à préserver un certain nombre d'actionnaires qui sont, après tout, les actionnaires minoritaires et qui sont les épargnants français.
Mais il faut un gendarme, il faut des lois, il faut quoi, Bernard Maris? Vous aurez la conclusion, malheureusement, sur le sujet.
Pourquoi Monsieur Pébereau est devenu patron d'entreprise? Parce que le capital est dispersé. Pourquoi Monsieur Bouton est devenu patron d'entreprise? Parce que le capital est dispersé. Pourquoi Monsieur Jaffré est devenu patron d'entreprise? Parce que le capital est dispersé. Monsieur Lagardère possède une entreprise qui s'appelle EADS avec 7% du capital. Ce qu'on appelle le capitalisme managérial, qui est le capitalisme moderne, est lié à la dispersion du capital. Alors si vous voulez nationaliser...
Les exemples que vous donnez sont exacts, mais ils ne sont pas devenus et restés patrons de leur entreprise parce que le capital était dispersé. Ils sont devenus et restés patrons de leur entreprise parce qu'ils ont su gérer leur entreprise de façon performante et en obtenant des résultats financiers qui les met à l'abri d'éventuels convoitises.
Est-ce que vous pouvez répondre un mot?
Vrai
ou faux? Vrai ou faux?
Si je m'appelle Albert Frère, je vais rentrer au capital de Suez et je peux même racheter que l'entreprise.
Pour des raisons de performance financière.
Pouvez-vous lui dire, en le regardant dans les yeux, que c'est vrai ou faux?
Si une entreprise est bien gérée, raison de plus pour la racheter.
Allez, on s'arrête là. On aura donc découvert les dures lois du capitalisme ce matin, Jean-Marc Sylvestre et Bernard Maris. Merci.